Bonjour à tous. Il aura fallu rien moins qu'une pandémie mondiale pour nous obliger à regarder en face ce que personne ou presque ne souhaitait trop regarder en face, les conditions de vie et de mort des résidents des EHPAD ou des vieux dans les maisons de retraite, quand on les appelait encore par un autre nom. Alors, les conditions de vie des résidents et aussi les conditions de travail de ceux qui les soignent au quotidien, ces héros du quotidien, comme on les appelle aujourd'hui. Alors, nous parlerons de cette invisibilité avec notre première invitée, Anne-Sophie Pelletier. Vous êtes aide médico-psychologique. Vous étiez aide médico-psychologique dans un EHPAD. Vous êtes aujourd'hui eurodéputée France Insoumise et très mobilisée toujours sur les conditions de travail de vos anciens collègues des EHPAD. Tandis qu'avec notre deuxième invité, Stéphane Audouin-Rouzeau, nous nous interrogerons sur la rupture anthropologique, ce sont vos mots à vous, que constitue l'acceptation générale ou apparemment générale à la renonciation au rite funéraire de nos parents et de nos grands-parents, renonciation induite par les conditions particulièrement terribles de la pandémie. Alors Stéphane Audouin-Rouzeau, je le rappelle, vous êtes historien de la Grande Guerre, la guerre de 14-18, et vous êtes aussi l'auteur d'un article le saisissant paru il y a quelques jours dans Mediapart et qui était titré « Nous ne reverrons jamais le monde que nous avons quitté ». Alors, on va commencer par se pencher, essayer d'éclairer la situation des EHPAD aujourd'hui. Alors, je pense qu'on peut dire que les EHPAD n'ont jamais été aussi médiatisés qu'aujourd'hui, presse écrite, télévision, ils sont partout. Il y a quelques jours, une enquête de Libération sur la chaîne d'EHPAD privée Korian, enquête titrée Les EHPAD Korian engloutis par la vague du Covid-19. Fourmillette de détails dans lesquels on apprenait notamment que les autorisations de masques pour les soignants et les soignantes dans ces EHPAD n'ont été attribuées que dans la dernière semaine de mars. Et encore, chaque soignant n'a-t-il le droit qu'à un ou deux masques par jour, alors que je crois que chacun s'accorde à dire qu'il en faudrait au minimum trois. Enquête de Libération qui nous rappelait également que un tiers du personnel, des EHPAD était aujourd'hui infecté par le virus, même si évidemment tout le monde n'en est pas malade et ne développe pas les symptômes. Nombreux sujets aussi à la télévision, au journal télévisé, comme ce reportage de France 2 qui insistait crûment sur les conditions de travail des soignants.
Dans les EHPAD de France, le coronavirus progresse. Il est déjà présent dans les établissements de l'Est, mais pas seulement. Partout, pourtant, le personnel soignant dénonce une pénurie de matériel de protection, et en particulier les masques qui vont très vite manquer.
Moi, je veux bien prendre soin des gens, il n'y a pas de souci, c'est mon métier, je suis payée pour ça. J'ai besoin de gants, j'ai besoin de tout un tas de matériel que je n'ai pas. Je veux des masques, des putains de masques.
Depuis 10 jours, les familles ne sont plus autorisées à pénétrer dans les établissements. Les personnels sont donc les seuls vecteurs potentiels du Covid-19.
Le président Macron, dans son allocution, a répété 6 fois « on est en guerre, c'est la guerre ». Moi, je l'entends, mais quand on est en guerre, on fournit des canons, on produit des armes, on produit des munitions. Et là, quand on a une guerre sanitaire telle que celle que nous vivons, eh ben, on produit des masques, on produit du gel hydroalcoolique.
Alors, énormément de thèmes dont on va parler dans cette émission, dans ce court extrait de France 2. Pour commencer, Anne-Sophie Pelletier, on voit effectivement beaucoup de reportages ces temps-ci et beaucoup d'enquêtes insistant sur les pénuries de masques. Alors, je crois que vous vous occupez en ce moment de centraliser un peu de nombreux témoignages de soignantes et de soignants qui souhaitent vous faire part de leurs conditions de travail. Est-ce que cette situation de pénurie est la situation générale des EHPAD de France, d'après ce que vous en savez?
Oui, c'est une situation majoritaire, je dirais peut-être pas générale, mais en tout cas majoritaire. Pour exemple, là, j'étais en train de relire un témoignage que j'avais reçu, des résidents qui sont atteints du Covid dans des structures, des unités, des agents qui luttent chaque jour pour que des masques chirurgicaux soient distribués à tous massivement, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. Des soignants, en particulier les aides-soignantes qui travaillent avec ces masques et qui sont insuffisants. Il faudrait des FFP2, ce ne sont que des masques chirurgicaux, des arrêts maladie qui se multiplient et de l'aveu même de la direction, on ne tiendra pas longtemps comme ça. Je vous lis un témoignage. Hein. Le linge sale qui s'entasse, des résidents qui sont tous confinés individuellement dans leur chambre, et là, il y a une crainte de glissement sur de l'isolement psychologique, et puis une cadre de santé qui répond, ou plutôt qui confie, ici c'est sauf qui peut, c'est comme si on attendait que les vieux meurent, et il va falloir faire quelque chose parce que ça ne sera pas sur le dévouement ne suffira pas pour sauver des personnes et des soignants dans les EHPAD. Voilà, ça c'est un des témoignages.
Vous en avez reçu combien depuis que vous les collectez ?
Ouf, je compte même plus, Daniel, je compte plus. Parce que je vous dirais très honnêtement que oui, on s'est battu en 2017, en tout cas avec avec mes collègues, on s'est battu pendant 117 jours de grève, où déjà nous dénoncions la prise en soin qui n'était pas dans la dignité de chacun. C'était un EHPAD privé à but lucratif et on voit aujourd'hui que tous ces cris des personnels soignants qui ne datent pas du Covid, qui datent de bien plus longtemps, eh bien, n'ont pas été écoutés par les gouvernants, comme si finalement, eh bien, à partir du moment où on devient dépendant, on est invisibilisé par nos gouvernants. Je pense que nos vieux, et ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche, au contraire, nos sages, eh bien, aujourd'hui, on leur a enlevé carrément toute leur citoyenneté. Je vais jusque-là, on leur a enlevé toute leur citoyenneté. Et finalement, des personnes qui meurent en EHPAD, ça n'a pas l'air de toucher nos grandes têtes pensantes. Parce que je voudrais juste rajouter quelque chose. À la fin de cette crise, je ne veux pas faire de polémique, il sera intéressant de voir s'il y a eu plus de décès dans les EHPAD publics ou dans les EHPAD privés à but lucratif.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser parce que on entend beaucoup le nom de Korian, qui est la principale chaîne d'EHPAD privés française depuis quelques jours dans les médias. Mais est-ce qu'on en parle plus parce que c'est pire dans les EHPAD Korian ou dans les EHPAD privés que dans les EHPAD publics? Ou est-ce qu'on en parle davantage pour, je sais pas, il y a d'autres raisons, peut-être parce que c'est la principale?
Alors, c'est multifactoriel, cette histoire, en fait. Vous parlez de Korian, moi, je voudrais vous parler d'Orpea.
Qui est la chaîne concurrente.
Qui est la chaîne concurrente, qui est un leader mondial de la prise en charge de la vieillesse. Enfin, moi, je dirais plutôt de la marchandisation de la vieillesse. Vous avez probablement vu que les EHPAD Orpea, qui ont des EHPAD en Chine, ont très bien vu ce qui se passait en Chine. Son actionnaire majoritaire, ça n'était pas la crise pour tout le monde. Quand il a vu ce qui se passait en Chine, il a vendu toutes ses actions, il est parti avec 456 millions d'euros.
Et c'était signalé dans le canard enchaîné, oui.
Voyez ? Donc, le fait qu'il y ait plus de décès en EHPAD privé à but lucratif n'est pas une surprise. Là, enfin, de se rendre compte de ce qui se passe dans les EHPAD. Mais ça fait des années que ça existe. C'est multifactoriel, tout simplement, parce qu'un EHPAD privé à but lucratif n'a pas d'infirmière de nuit, par exemple. C'est souvent une soignante et une personne non diplômée.
Alors que dans les EHPAD publics,
vous avez toute l'équipe soignante, puisqu'ils dépendent aussi de l'hôpital, généralement. Donc, vous avez toutes les équipes soignantes. Et puis, autre chose aussi, c'est que, par exemple, dans ma région, dans l'Est, il faut quand même savoir qu'à un moment donné, quand les EHPAD appelaient pour que les hôpitaux prennent en charge des personnes âgées, on leur répondait non, on ne prend pas en charge. Non, on ne soigne plus. On ne soigne plus les personnes âgées. On fait un tri, il faut être clair là-dessus.
Alors, ce qui est peut-être encore plus invisible d'ailleurs que les conditions de vie dans les EHPAD, c'est le business des EHPAD. Et nous, à Arrêt sur Image, on a été très frappés cette semaine de voir que le jour même où paraissait cette enquête de Libération sur la chaîne Korian, dont on vient de montrer un extrait, le jour même, sur la chaîne financière de télévision BFM Business, qui dépend du même groupe, le groupe Altice que le journal Libération, l'action Korian était recommandée à l'achat. C'est-à-dire, on disait, c'est une bonne affaire, je voudrais juste qu'on écoute l'extrait.
Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Vous proposez de jeter un œil sur Korian. On est vraiment dans le cœur, dans un des cœurs du moment, de la crise.
Exactement, mais un peu au cœur de l'actualité. Hein. Donc Korian, donc c'est une société donc de maisons de retraite et de cliniques de soins de suite et de réhabilitation. Donc aujourd'hui, le titre baisse parce qu'il y a une surmédiatisation du groupe Korian à cause notamment de deux ou trois EHPAD, dont celui de Mougins, où il y a eu énormément de décès. Donc pour donner quand même quelques chiffres qui ont été rappelés par la direction générale du groupe, aujourd'hui ils ont 356 décès, ils ont sur 308 établissements dans le groupe, donc sur un peu plus de 25 000 lits. Voilà, donc ça, ce sont les chiffres, même si c'est toujours dramatique, ça reste quand même marginal à l'échelle du groupe. Sur le business en lui-même, il n'a pas changé, hein, même si effectivement, ils doivent s'adapter, c'est plus compliqué, notamment au niveau des admissions. Il y a beaucoup d'établissements qui ne peuvent plus prendre de nouveaux résidents, mais globalement, le business continue de tourner. De même en clinique et soins de suite et de réhabilitation. Tout ceci devrait finir par se tasser. Alors, je ne sais pas si ce sera à la fin du déconfinement, mais en tout cas, à un moment donné, ça va se passer et les activités pourront reprendre leur cours. Et après, on devrait retrouver le groupe tel qu'on l'a connu. Donc, avec cette croissance dont j'ai parlé, mais également la croissance des résultats, puisqu'ils ont le travail qu'ils ont commencé il y a quelques années devrait se poursuivre. Et donc, on devrait avoir de nouveau des améliorations de marge sur le groupe.
Donc, achetez du Korian, achetez-le à la baisse. Anne-Sophie Pelletier.
Mais souvenez-vous, Daniel, de ce qu'avait dit Agnès Pannier-Runacher.
Secrétaire d'État à l'économie.
Elle avait dit que c'était le moment d'investir en bourse. Au début de la crise, hein, souvenez-vous. Donc, ces gens chez Korian, évidemment que le business continue. La vieillesse est devenue une marchandise aujourd'hui. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que nous avons deux aides-soignantes qui sont décédées chez Korian du Covid. Vous avez vu passer une communication là-dessus? Et je voudrais juste passer un message parce que nous avons un médecin dans ma région, un Leslosenier, qui est décédé aussi du Covid parce qu'il manquait de masques. Vous avez vu passer des communications là-dessus?
L'Leslosenier où les urgentistes avaient été réquisitionnés par le préfet.
C'est exactement ça. Et en fait, on voit que ces grands groupes privés à but lucratif, alors je vais quand même rajouter quelque chose. Les soignants sont payés par qui dans ces grands groupes privés à but lucratif? Par de l'argent public, par les agences régionales de santé, à hauteur de 70%. Les 30% restants, c'est l'argent des conseils départementaux. Ils ont aussi des enveloppes de soins avec de l'argent public pour tout ce qui est matériel de soins, comme des gants en latex, des gants à l'usage unique pour faire des toilettes et des protections. Alors, ces gens qui touchent de l'argent public et qui font des bénéfices outranciers, eh bien, sont encore aujourd'hui capables de faire de la… pas de la réquisition, comment dire, mais ils décident que sur les protections, ils vont mettre un ratio.
Oui, sauf que… Ça, je dois dire que moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans cette crise, c'est que, par exemple, les masques ou les couches des résidents étaient rationnés, c'est-à-dire en tout cas dans les EHPAD privés.
Mais bien sûr.
Vous dites bien sûr, mais les gens ne le savent pas ça. Les gens.
Pardon.
Les gens s'imaginent que si on a besoin de changer deux fois, trois fois, quatre fois de couche un résident dans un EHPAD parce qu'il a la colique, on pourra le faire.
Non.
Oui. Mais alors...
Et puis moi, j'ai même vu des EHPAD privés à but lucratif où j'ai eu des témoignages où, comme il n'y avait plus de gants en latex pour faire des toilettes, ils ont mis des sacs poubelles sur leurs mains parce qu'il n'y a plus de gants. Et je discutais avec Guillaume Gobet, qui est secrétaire CGT du groupe Orpea, qui me disait, en fait, ces groupes ont attendu que l'État, encore une fois, leur donne des masques, des surblouses, parce qu'on n'en parle pas non plus et ça va être un peu triste, mais les housses mortuaires également qui sont en manque. Ils ont attendu que l'État mette en place des choses, donc ils ont attendu simplement, assis sur leur siège, qu'ils aient des masques, et finalement, ils auraient très bien pu, sur leur fonds propre, acheter des masques, non ? Plutôt que d'envoyer des soignants au front, sans protection, mettre en danger des personnes âgées.
Encore une fois, moi, je ne le mets pas dans le même sac parce que les masques, bon, la question est nouvelle, elle s'est posée de façon universelle. La question de la pénurie de masques, elle est universelle, mais les couches dans les EHPAD, là, pour le coup, voilà.
Daniel, on peut parler alors des surblouses. Oui. Les surblouses, rien n'a été mis en place pour les surblouses. Les gants en latex pour faire des toilettes. Quand vous avez des soignants qui sont obligés de mettre des sacs poubelles aux mains pour faire des toilettes parce qu'il n'y a plus de gants, ne me dites pas que ça, c'est de la pénurie suite au Covid. Ces manques sont là. Tout le temps, toute l'année.
Chronique.
C'est une pathologie chronique des EHPAD, en tout cas.
Stéphane Audouin-Rouzeau, dans le premier extrait qu'on a passé, on entendait un directeur d'EHPAD, je crois, faire le parallèle avec la guerre, avec les et parler des soignants comme des appelés envoyés au front et qu'on envoyait sans armes, sans canons. Est-ce que alors bon, le parallèle avec la guerre, il a beaucoup été développé depuis le début de la pandémie. Est-ce que sur ce plan particulier, c'est un parallèle qui vous paraît justifié?
On m'a posé déjà plusieurs fois cette question. Non, le parallèle n'est pas justifié. Pour parler de guerre, de manière un peu rigoureuse, en sciences sociales et en historien, il faut qu'il y ait un ennemi identifié, il faut qu'il y ait surtout qu'il y ait évidemment mort violente. Et actuellement, nous ne sommes pas devant... on est devant la mort, mais pas devant la mort violente. Il faut qu'il y ait une situation géopolitique. Tous ces éléments manquent. En revanche, ce que je crois, et j'en suis de plus en plus persuadé, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut être assimilé à un temps de guerre. C'est-à-dire, non pas un temps objectif, mais un temps subjectif, un temps vécu par les acteurs sociaux. Hein, et on a bien toutes les caractéristiques d'une temporalité donc, de guerre, avec d'abord, quand on est entré dans la période qui a précédé le confinement, une sorte de densification, d'accélération du temps où chaque heure comptait, avec une focalisation progressive des préoccupations de tous les acteurs sociaux, de nous tous, hein, sur l'événement lui-même en train de se produire. Ça ressemble beaucoup à une entrée en guerre, un temps d'entrée en guerre. Et puis ensuite, eh bien, on est entré dans ce temps interminable, hein, dans lequel nous sommes, toutes les journées se ressemblent. À la fois, le temps d'avant nous paraît très loin, et pourtant, chaque journée est très longue dans le confinement. Ça, c'est vraiment ce que ressentaient les soldats, par exemple, de la Grande Guerre. Et si ce temps est si long, c'est parce que l'avenir est bouché. C'est parce qu'il n'y a pas un avenir qui se dessine, et quand l'avenir est bouché, il tue le présent.
Et donc, et l'horizon se recule. C'est-à-dire
voilà, l'horizon. Voilà, nous sommes dans une stratification de court terme successif. D'abord, on pensait se confiner pour un temps assez court, puis ça s'allonge, ça se prolonge, et puis la sortie elle-même ne sera pas une sortie complète. Donc le temps s'allonge et nous vivons en fait une succession de court termes qui, tous les uns ajoutés aux autres, mis bout à bout, deviennent un moyen terme, voire un long terme. Eh bien, ça, c'est exactement une situation de temps de guerre où les gens, évidemment, n'imaginent pas en 14 qu'ils vont rester en guerre jusqu'en 18 ou en 40 qu'ils vont rester en guerre jusqu'en 44 ou 45. Non, ils estiment que ça va être réglé rapidement. Et ce rapidement n'est jamais réglé. Et donc, c'est comme ça que nous sommes entrés dans une temporalité guerrière, mais non pas, bien sûr, dans la guerre elle-même.
Alors, Anne-Sophie Pelletier, j'allais vous demander si ces mots de temps de guerre vous parlent, mais en même temps, je me dis, vous êtes en guerre depuis très longtemps. Je veux dire, votre grève de 2017, cette grève de 117 jours dont vous nous parliez, là, vous étiez déjà en guerre.
Nous étions en temps de grève, parce que j'ai bien écouté Stéphane, nous étions en temps de guerre, parce que les journées nous paraissaient très longues, effectivement, et qu'on voyait difficilement un horizon, je dirais, plus clair concernant nos personnes âgées en EHPAD. Oui, les soignants à qui on doit énormément sont en temps de guerre parce que aujourd'hui ils perdent des résidents. J'écoutais un témoignage d'une soignante qui disait « Mais j'ai le regard de cette femme apeurée qui a mal et qui décède. J'ai le regard de cette résidente qui va me rester à vie. Et j'ai bien peur que ce temps de guerre qui soit très long et qui est déjà très long, eh bien, sur les risques psychosociaux des soignants, ça va peser énormément. C'était déjà un métier où les risques psychosociaux étaient très élevés. Je voudrais juste rappeler quand même que dans nos métiers, les taux d'accident de travail sont supérieurs à ceux du bâtiment. Plus la charge émotive, la charge émotionnelle également. Parce que quoi qu'on en pense, un soignant qui travaille en EHPAD, ou une aide à domicile, ou une auxiliaire de vie à domicile, eh bien, elle s'y attache à la personne âgée. Et derrière, eh bien, là, c'est une vue de souffrance extrême qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les soignants, je ne sais pas comment on va les récupérer après ce temps long, mais en tout cas, j'ai bien peur qu'on ait des dépressions, des burn-out, qui existaient déjà, mais des dépressions et peut-être même des suicides, parce qu'il arrive que des soignants se suicident sur leur lieu de travail et à domicile.
Alors ça, c'est une question particulièrement intéressante. Qui dit guerre dit évidemment héros, Et depuis plusieurs semaines, les politiques et les médias héroïsent les soignants de manière totalement nouvelle, je dois dire, pas seulement les soignants d'ailleurs, mais enfin, il y a toutes ces images de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, etc. Et s'agissant des soignants des EHPAD, un certain nombre d'initiatives ont été extrêmement médiatisées, comme dans certains EHPAD dans lesquels les équipes de soignants, pour ne pas risquer de contaminer les résidents, se sont confinées avec elles. Il y a eu un certain nombre de reportages, on en regarde un.
Une vie proche les uns des autres, se toucher, danser ensemble. Dans cette maison de retraite, rien n'a changé, pas de distance imposée. Il faut dire que le personnel a pris une décision radicale, ne plus sortir d'ici pour éviter de contaminer les résidents, et c'est une réussite.
Voilà mon petit chez moi.
Même le cuisinier dort maintenant dans son bureau. Ouais. 3 semaines qu'il n'a pas vu sa famille.
J'ai 2 enfants, bon, c'est un peu compliqué, mais bon, après c'est qu'un mois de notre vie pour protéger les résidents, pour moi c'est important.
Barricadé. Et aucun cas de Covid-19 dans cette EHPAD de 58 résidents. Pour le directeur, ce n'est pas un hasard.
Aujourd'hui, on est convaincu d'une chose, c'est qu'on ne va pas amener le Covid avec nous, puisqu'on a passé les périodes de quarantaine, tout le monde va bien. J'irais même jusqu'à dire que mes résidents vont bien mieux que l'année dernière à la même période, puisque comme il n'y a pas de contact avec l'extérieur, on n'a pas de rhume, on n'a pas d'angine, on n'a rien de tout ça.
Pour les résidents, un mois de répit face au danger et beaucoup, beaucoup de gratitude.
Je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont été très dévoués.
Donc s'ils n'avaient pas fait ça ?
Eh bien, certainement qu'on aurait été en contact avec des gens malades. Et dans la tranche d'âge que nous sommes, vous savez, il y a peu de chances de s'en tirer.
Mais le confinement du personnel, fatigué, prendra fin la semaine prochaine. Le travail s'effectuera désormais avec des masques et des activités un peu plus éloignées les uns des autres.
Voilà, héroïsation des soignants qui a amené Emmanuel Macron à répéter plusieurs fois que les soignants avaient, je cite, « des droits sur nous ». On l'écoute.
Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ses enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Ils ont des droits sur nous. Nous leur devons, évidemment, les moyens, la protection. Nous serons là. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire. Et nous y veillons et y veillerons.
Voilà, ça c'était donc le discours du 16 mars, au tout début du confinement, sur la réalisation concrète de la promesse de masques. On a vu ce qu'il en est aujourd'hui, plus d'un mois après. Stéphane Audouin Rousseau, ils ont des droits sur nous, si je ne me trompe pas, c'est du Clémenceau, c'est ça ?
Ah, c'est une phrase célèbre de Georges Clémenceau quand il accède à la présidence du Conseil dans son discours de novembre 1917. Évidemment, quand il dit « ils ont des droits sur nous », il parle bien sûr des soldats, il dit « ces jeunes Français que nous avons été contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous ». À ce moment-là, applaudissements bien sûr sur tous les rangs. La phrase est très forte, elle est bouleversante et elle sera évidemment reprise ensuite par les anciens combattants dans les années 20, dans les années 30 pour dire « est-ce que ces droits est-ce que les droits en question ont bien été en quelque sorte honorés. Alors ça, c'est vraiment un plagiat très, très étonnant hein, de cette, et ce n'est pas hasard bien sûr, hein, de ce discours de Clémenceau, et les soignants hein, ont remplacé les poilus. Et de la même manière, c'est-à-dire c'est les soignants, non pas les grands médecins, mais les soignants de base en quelque sorte, qui, comme les poilus de base, hein, sont censés finalement sauver le pays et dans le cas présent, sauver la vie humaine.
Et de fait, dans les années 20 et 30, les anciens combattants représentent un pouvoir considérable, un groupe de pression considérable, un pouvoir politique considérable, et les manifs d'anciens combattants sont
Ils représentent les 2/3 des électeurs. Il n'y avait que le suffrage masculin, ils représentaient au début des années 30 les 2/3 des électeurs. C'était évidemment un groupe de pression considérable. Malheureusement, les soignants, en dehors d'une sorte de recharge sacrale hein, qui sur le plan symbolique vient d'avoir lieu dans les dernières semaines, ne représenteront pas un groupe de pression de cette puissance hein, quand nous sommes de cette crise.
Qu'est-ce qu'on en sait ? Et j'ai envie de demander ça à Anne-Sophie Pelletier. Est-ce que vous pensez que vous allez être les poilus des années 2020 ?
Je vais vous donner une réponse très simple et très claire. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que même si Emmanuel Macron aussi a eu une sémantique sur le quoi qu'il en coûte, sur le soignant d'un seul coup qui devient quelqu'un qu'il reconnaît dans le discours, je voudrais juste rappeler le nombre de services d'urgence qui étaient en grève juste avant cette crise. Je voudrais rappeler les manifestations des personnels des EHPAD. Hein, personne n'a été écouté, ils n'ont rien écouté, ils n'ont rien entendu. Donc demain, après cette crise, je pense qu'il n'écoutera pas plus. Et il sera intéressant justement de voir comment ça se passe.
Vous pensez vraiment ? Vous pensez ? Non mais
je pense très sincèrement. Je pense très sincèrement qu'il n'y aura pas plus d'écoute. Il n'y aura pas plus d'écoute.
Vous pensez qu'il sera aussi facile de matraquer ou d'envoyer des LBD sur des soignants après cette, enfin après, je sais pas si, quand il y aura un après, je ne sais pas quand arrivera l'après, mais on va dire après le confinement en tout cas, que ça l'était avant.
Je pense très sincèrement. Et vous savez qui est-ce qu'il a oublié, M. Macron, dans ses discours ? Les aides à domicile et les auxiliaires de vie sociale. Ces personnels essentiels dans l'accompagnement de la vie et des gestes quotidiens de nos aînés au domicile. Parce que vous savez ce qui s'est passé pour ces femmes courageuses et ces hommes ? Eh bien, les associations n'avaient pas de masques. Très bien, une pénurie, je veux bien. Mais dans cet état d'urgence sanitaire qui a été voté, elles n'ont pas été considérées comme des personnels essentiels. Et quand elles allaient à la pharmacie, on leur disait « Vous n'êtes pas des personnels prioritaires ». J'ai reçu un message hier d'une auxiliaire de vie sociale qui culpabilise énormément parce qu'elle s'occupait d'une dame âgée qui ne sortait pas avec des infirmières libérales. Cette dame est décédée du Covid-19. Et ça, cette crise du Covid, en tout cas, rajoutera de la culpabilité à la culpabilité que les soignants avaient déjà de ne pas pouvoir faire leur travail correctement. Mais je ne pense pas qu'à la fin de cette crise, à la fin de cette pandémie, quand les soignants seront dehors, eh bien, il n'y aura pas à nouveau des décisions de matraquage ou de gazage. Je ne pense pas.
Est-ce que vous personnellement, Anne-Sophie Pelletier, vous considérez que cette crise va vous donner des droits sur le gouvernement ou sur... D'ailleurs, on ne sait pas très bien qui désigne le « nous » de Macron. On ne sait pas très bien si le « nous » de Macron désigne l'État, le gouvernement, la population, la troisième ligne, la quatrième ligne. Mais est-ce que vous pensez que cette pandémie va vous donner des droits ?
Non, pas plus qu'hier et pas plus que demain. Les soignants ne font pas ça pour être héroïsés, les soignants font ça parce que c'est une vocation. C'est le métier qu'ils ont choisi. Donc, est-ce que nous avons plus de droits après cette pandémie ? Non, les droits, nous les avions dès le départ. Tous les soignants les avaient dès le départ.
C'est d'ailleurs intéressant, parce que c'est une des différences des deux situations qui ont beaucoup de différences par ailleurs, c'est que les soignants ont choisi, c'est une vocation, les poilus de 14 n'avaient rien choisi du tout, ils sont partis parce qu'on leur demandait de partir.
Mais oui, là ils ont choisi un métier qu'ils aiment, qu'ils voudraient faire correctement, et qui n'arrête pas de crier que le soin c'est de l'humain, pas du chiffre. Donc quand Emmanuel Macron nous dit quoi qu'il en coûte pour la santé, eh bien on verra. On verra si après cette pandémie, des moyens sont mis dans la santé. On verra si des lits ne sont plus supprimés dans nos hôpitaux régionaux, par exemple. On verra si des maternités ne sont plus fermées, qui font qu'aujourd'hui, nous avons des bébés pompiers ou des bébés voitures partout sur le territoire. On verra si des urgences ne sont plus fermées. On verra si des lits de SMUR ne sont plus fermées.
Stéphane Audouin-Rousseau, qu'est-ce qui vous fait partager le pessimisme d'Anne-Sophie Pelletier sur ce point ?
À dire vrai, c'est sur ce point, je ne sais pas. Je suis historien et je suis bien conscient. J'interviens, je ne suis pas moi-même engagé politiquement. Donc, mon pupitre ici est un pupitre de sciences sociales, hein, d'histoire.
Ouais, vous avez dit tout à l'heure, ça ne se passera pas comme pour les poilus.
Oui, parce que il me paraît, voilà, on ne peut pas, les soignants ne pèseront pas dans la société à venir le poids qu'on pesait, par exemple, ceux qui avaient des droits, effectivement, comme les poilus dans la société des années 20 ou des années 30. Maintenant, en revanche, en termes de présence symbolique, hein, oui. Quelque chose s'est joué nouveau et ça compte énormément.
Les concerts de casseroles sur les balcons.
Absolument. Mais
est-ce que ça va s'évanouir du jour au lendemain ?
Voilà, le problème du temps de guerre, c'est que toute une série d'affects propre au temps de guerre, par exemple cette reconnaissance qui s'exprime et de manière ô combien justifiée vis-à-vis des soignants, cette reconnaissance qui s'exprime maintenant de manière parfois bouleversante, eh bien, elle peut aussi disparaître avec quand cette temporalité de guerre disparaîtra. Les affects du temps de guerre meurent souvent avec le temps de guerre lui-même. Et de ce point de vue, on peut être optimiste ou pessimiste. En tant qu'historien, je ne connais que le passé et éventuellement le présent. Je ne peux pas faire de prévisions sur l'avenir. Ce serait vraiment une forme d'escroquerie intellectuelle.
Et c'est comme ça que ça se passe dans les années 20. C'est-à-dire, dans les années 20, les affects du temps de la guerre s'évanouissent.
Ben, ils ne s'évanouissent pas immédiatement, mais néanmoins, les anciens soldats ont eu très vite l'impression que ces affects s'évanouissaient, hein, et qu'ils n'étaient pas reconnus, hein, que leur sacrifice, hein, au sens fort, sacrifice, c'est-à-dire rendre sacré, hein, que leur sacrifice, et après tout, beaucoup de soignants se sont littéralement sacrifiés jusqu'à la mort, hein, au cours de cette crise, et bien que leur sacrifice, finalement, hein, n'était pas certes tout à fait oublié, mais enfin, qui n'était pas réellement reconnu, c'est particulièrement vrai pour d'autres sociétés que la société française. La société allemande, par exemple, hein, le sacrifice des soldats, bien sûr, les handicapés, les mutilés, etc., n'a pas été reconnu dans l'Allemagne des années 20 parce qu'il rappelait la défaite. Ce sont des choses très, très complexes. On ne peut pas être sûr, hein, que se maintiendront, hein, les affects qui, aujourd'hui, s'expriment avec tant de force pendant le confinement.
Anne-Sophie Pelletier, ce mot de sacrifice vous paraît adapté aux soignants ?
Ah, mais complètement. Il n'y a pas d'autre mot. Combien de médecins décédés ? Combien d'aides-soignantes décédées ? Combien d'infirmières décédées ? Oui, ce sont des sacrifices. Ces soignants ont fait des sacrifices. Le mot est particulièrement bien adapté.
Alors, il y a une autre réalité que cette pandémie nous place brutalement sous les yeux, c'est la réalité de la mort, la réalité de la mort de maladie et la manière dont aujourd'hui, du jour au lendemain quasiment, des rites funéraires d'accompagnement des mourants et des morts, des rites immémoriaux, se sont trouvés... mis entre parenthèses, si tant est que la parenthèse se referme un jour. Alors, je voudrais qu'on voit plusieurs images. Je voudrais qu'on voit d'abord une scène qui a été montrée dans l'émission quotidienne de TF1 de 7 à 8, dont on a déjà parlé dans Arrêt sur image. Scène dans laquelle on voit la veuve d'un monsieur qui vient de mourir du Covid-19 arriver dans l'entreprise de pompes funèbres. Et elle arrive avec sa belle-fille. Et la belle-fille n'a pas le droit, elle, pour raison sanitaire, d'entrer dans les bureaux. On regarde.
Elisabeth Rohrbach vient de perdre son époux. Même dans la douleur, geste barrière oblige, elle doit laisser à la porte sa belle-fille venue la soutenir. Son mari est mort du coronavirus. Par mesure sanitaire, le cercueil a été scellé à l'hôpital. Elisabeth n'a pas eu le droit de faire ses adieux à son époux.
Donc je m'appelle Sandra, je vais tâcher de vous accompagner au mieux dans la difficulté de ce que vous êtes en train de traverser, mais en sachant, comme je vous l'ai dit, qu'aujourd'hui les conditions sanitaires ne nous permettent pas de pouvoir organiser les obsèques comme vous le souhaiteriez initialement.
Il a incinéré déjà ?
Non, du tout. Là, pour l'instant, ce qui a été fait ce matin, c'est sa mise en bière.
Je ne sais même pas si on a le droit de le voir, je ne pense pas.
Non, c'est ce que je disais ce matin à votre belle-fille.
Elisabeth a du mal à réaliser qu'elle ne pourra plus revoir le visage de celui qui a été son mari pendant 59 ans. Il n'y aura pas non plus de cérémonie pour la famille au moment de l'incinération.
On ne peut même pas rendre hommage à mon beau-père. Il ne peut rien faire. On n'a pas pu aller le voir, c'est tout. Je vais juste dire aux gens, là, les imbéciles qui sont en cours dehors et qui font les cons, qui restent chez eux, merde.
Pas pouvoir le voir, c'est...
C'est horrible. Pas pouvoir lui dire au revoir aussi. C'est comme si on faisait pas notre deuil.
Stéphane Audouin Rousseau, vous me disiez avant l'émission que l'acceptation de ces interdictions multiples était un des aspects qui vous avait le plus sidéré dans ce qui nous arrive depuis un mois. Plus à moi.
Oui, je ne connaissais pas ce reportage qui me bouleverse comme vous, je suppose. Ça confirme ce que je pense, c'est qu'il y a effectivement une rupture anthropologique, c'est-à-dire que quelque chose d'absolument fondamental qui caractérise, hein, les sociétés humaines, c'est-à-dire à la fois les rites d'ensevelissement des mourants et l'accompagnement de ces mourants par leurs proches, ces rites fondamentaux qui font la différence entre société humaine et société animale depuis la préhistoire, eh bien, en très peu de temps, en très peu de temps, ces rites ont été très largement donc supprimés, jetés à bas, parce que effectivement les proches n'ont pas pu accompagner donc les derniers instants de leur, donc de ceux qu'ils aimaient, et d'autre part parce que les obsèques, hein, ce moment très important du passage de la vie à la mort, et puis ce moment essentiel bien sûr, hein, pour les familles dans le ce qu'on appelle aujourd'hui le travail de deuil, ce moment a été très largement supprimé. On vient de le voir. Alors ce qui est très frappant aussi, c'est que cette personne endeuillée qu'on vient de voir ne se révolte pas.
Voilà, c'est surtout ça. J'ai envie de vous dire, c'est surtout ça. Parce que l'interdiction pour raison sanitaire, à la limite, on peut le comprendre. Mais l'acceptation par le corps social, c'est surtout ça, non ?
Alors, il y a plusieurs acceptations. Je suis très frappé d'abord de voir que les églises ont accepté. Or, l'accompagnement des mourants et l'accompagnement des morts, hein, face aux vivants, est une de leurs missions absolument essentielles, une de leurs raisons d'être, en particulier de l'Église catholique. Hein. Or, bizarrement, je n'ai vu, sauf erreur de ma part, aucune protestation, aucun trouble qui se soit exprimé devant ce que j'appelle une transgression anthropologique, d'autant plus stupéfiante qu'elle s'est produite en quelques heures, en quelques jours, hein, ce qui montre un trouble profond, hein, de la société, hein, comme si les seuils de tolérance étaient brutalement effondrés en permettant ce qui, une semaine avant, aurait paru littéralement monstrueux. Je ne condamne pas facilement. Moi-même, j'ai été pris là-dedans, hein, comme d'autres. Nous avons été pris tous là-dedans. Hein. Nous sommes en situation d'observation participante, hein, ici. Donc, les églises n'ont rien dit, en particulier l'Église catholique. Les philosophes, les grandes voix françaises, dont on est, voilà, qui ont accès aux ondes de manière régulière, à ma connaissance, n'ont rien dit, ne se sont pas élevés contre ces mesures quand même terribles, hein. Et puis il n'y a pas eu non plus de protestation sociale, alors que le confinement a été transgressé de tas de manières, on le sait bien. Eh bien, je ne sache pas qu'il y ait eu des attroupements devant les EHPAD, que des familles aient cherché à rentrer de force pour aller voir leur mère, leur père. Je dois dire que si moi-même j'avais eu ma mère dans un EHPAD, je ne sais pas si n'aurais-je pas accepté ce confinement, ou peut-être, comme les autres, hein, l'aurais-je accepté avec cette résignation qui me frappe énormément. Il y a eu une acceptation sociale pendant plusieurs semaines qui est stupéfiante, et apparemment, nous nous sommes en train de sortir. D'ailleurs, cette émission, hein, est un signe de sortie. Le dernier, l'assouplissement des mesures empêchant les visites, jusqu'ici annoncé par le président de la République dans son dernier discours, confirmé par le Premier ministre, montre qu'il y a eu une sorte de prise de conscience que quelque chose d'anormal, hein, c'était produit là. Et d'un point de vue de sciences sociales, hein, il s'agirait encore de faire la sociologie de cette décision, qui l'a prise, comment elle a été prise, et puis de faire aussi une enquête peut-être plus tard, hein, sur comment une telle décision a pu être acceptée par les acteurs sociaux, par nous tous. C'est là quelque chose qui, pour un historien du contemporain, interroge de manière extrêmement aiguë, et je dirais même extrêmement cruelle.
Voilà, je veux dire que personnellement, le deuxième aspect m'intéresse davantage que le premier, c'est-à-dire qu'encore une fois, je comprends bien pourquoi la décision a été prise, mais son acceptation générale me semble encore aujourd'hui un grand mystère.
Alors, bon, on peut toujours, dans ces cas-là, oui, ce mystère, on peut essayer de trouver au moins quelques éléments. Il y a évidemment, certainement, ce processus ne vient pas de nulle part. Il y a dans nos sociétés, depuis longtemps maintenant, une forme de déni de la mort. Hein, le deuil est de moins en moins visible, il est même invisibilisé. Hein, il devient obscène aujourd'hui d'être en deuil dans l'espace public. Hein, quelqu'un qui, après avoir perdu ses parents, sa mère, son père, etc., mettre une cravate noire, par exemple, ça paraît une agression des autres. Hein. À faire part de deuil aujourd'hui, c'est tout juste si on ose un filet gris. Dans mon enfance, les faire part de deuil, il y avait encore un filet noir. Hein. Ça paraîtrait une provocation aujourd'hui. Alors, il y a eu un déni de la mort qui est lié aussi, bien sûr, à l'allongement de l'existence, à cette idée que même à 70 ans, 75 ans, on n'est pas encore âgé, etc. Alors, il y a ça. c'est sûr. Il y a aussi des formes de relégation sociale des plus âgés, hein, dont les EHPAD sont un signe. Quand je dis relégation sociale, là encore, je ne juge pas, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire, mais on sait que nous nous séparons, hein, des plus, les familles se séparent des plus âgés, on meurt de moins en moins à domicile, hein, il y a là, évidemment. Et puis, il y a eu cette petite musique quand même, hein, au début de l'épidémie, quand l'épidémie était encore très sous-estimée dans sa gravité, on disait, bon, bah, oui, c'est peut-être pas si grave que ça, il n'y a que les vieux qui meurent. Tiens, tiens, je l'ai entendu, vous l'avez entendu, hein, j'ai entendu 1000 fois, il n'y a que les vieux qui meurent, c'est pas si grave. En d'autres termes, au fond, le sacrifice des plus âgés, qui, eux, n'auraient pas été gênés de vivre encore un peu, hein, le sacrifice des plus âgés était considéré comme plus ou moins fâcheux, certes, mais envisageable. Et là, n'est-ce pas, la porte s'est ouverte. Il me semble que dans cette... Alors, évidemment, dans cette phrase, bon, il y a que les vieux...
Alors, attendez,
il y a quelque chose d'une protection, hein, bien sûr.
Une seconde, Stéphane Audouin-Rousseau. Il me semble que cette petite musique du début, comme vous dites, elle revient en force ces jours-ci, au contraire, et d'autant plus fort. Je voudrais vous montrer un tweet qui a été posté par un journaliste de Libération, Jean Quatremer. C'est dingue quand on y songe. Plonger le monde dans la plus grave récession depuis la Seconde Guerre mondiale pour une pandémie qui a tué pour l'instant moins de 100 000 personnes. Parenthèse, sans parler de leur âge avancé, dans un monde de 7 milliards d'habitants. Alors, je dois dire qu'après ce tweet, Quatremer s'est pris ce qu'on appelle, dans le langage des tweets de Twitter, un shitstorm, c'est-à-dire une tempête de merde, pardon, qui a fait qu'il a dû mettre son compte en privé, il a dû passer son compte en privé, parce que, bon, on voit quand même que ces propos-là, ce type de propos, ne sont pas discibles dans l'espace public. Mais n'empêche qu'il l'a dit. Alors attendez, on va revenir sur tous les points un par un. D'abord sur l'invisibilité de la mort. Anne-Sophie Pelletier, est-ce que finalement, il n'y aurait pas un point commun entre l'invisibilité de la mort aujourd'hui par rapport à ce qu'étaient les rites funéraires il y a 50 ans encore, dont parlait Audouin-Rousseau. Moi, je me souviens qu'il y a 50 ans, quand dans un immeuble parisien, il y avait eu un mort, on mettait des tentures noires autour de la porte cochère de l'immeuble, ce qui a totalement disparu. Et ça va dans le sens de ce que vous dites sur la réprobation autour de la cravate noire, etc. Est-ce que cette invisibilité de la mort ne serait pas du même ordre que l'invisibilité des EHPAD eux-mêmes, c'est-à-dire l'invisibilité des vieux, l'invisibilité des conditions de vie et de mort des vieux.
Je pense pas qu'on puisse résumer ça comme ça, l'invisibilité de la mort, comme le disait Stéphane, elle n'est pas que dans les EHPAD, en fait. Je pense pas que ça se réduise aux EHPAD. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est cette petite musique, comme vous le disiez, où finalement, il y aurait des morts plus légitimes que d'autres. Comme si les vieux, finalement, c'était plus légitime qu'ils décèdent, ils sont âgés, donc il vaut mieux que ce soit une personne âgée qui décède plutôt qu'un jeune. Hein ? Voilà, il est là le problème. Et quand on parle des familles, et sur cette invisibilité de la mort, et sur le deuil, puisque j'étais aide médico-psychologique, je suis également frappée par... le fait qu'ils ne soient absolument pas en colère. Ils ont encore ce sentiment d'abandon, d'avoir abandonné un peu plus leur personne âgée, parce que je voudrais quand même rappeler quelque chose. Une famille ne place pas sa personne âgée en EHPAD parce que ça lui fait plaisir. C'est souvent une forte culpabilité que portent les familles. Et une personne âgée est placée en EHPAD parce que, à domicile, souvent, eh bien, ça n'est plus possible de la prendre en soin, parce qu'il n'y a pas les moyens. Et puis parce qu'aussi les pathologies ont changé. J'invite qui que ce soit à garder au domicile une personne âgée ayant une grosse pathologie Alzheimer, ça devient vite insurmontable. Et il n'y a que l'EHPAD pour pouvoir prendre en soin la personne, en espérant pour les familles qu'elle soit bien prise en soin. Ça, c'est un deuxième point. Mais les familles, effectivement, concernant le deuil, cette famille que j'avais au téléphone, c'était avant-hier, hein. Vous voyez, c'est pas vieux. Me disait, on ne l'a pas vu. Donc, il y a en plus cette double difficulté, finalement, où les visites ont été arrêtées et où les personnes n'ont plus pu voir leurs proches parce que la dernière image qu'ils pouvaient avoir de quelqu'un, d'un parent qui pouvait sourire encore ou d'un parent bon, qui était peut-être moins en forme et tout, mais ça, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont plus, ils ne l'ont pas eu. Et c'est une double difficulté parce que ils ont été spectateurs finalement des décisions du gouvernement sur l'arrêt des visites en maison de retraite. Ils ont été spectateurs, ils n'ont pas eu le choix. On leur a imposé quelque chose qu'ils ont compris parce que le mot asymptomatique aujourd'hui, je crois, est connu de tout le monde et qu'ils avaient peur d'être potentiellement asymptomatiques, sans masque, sans protection, et de venir bien contaminer leurs proches ou un autre résident. Donc, il y a une forme d'acceptation parce que les familles ont pris conscience de la dangerosité du virus. Et la mort aujourd'hui, pour ces familles, elle est aussi terrible, voire même plus, même beaucoup plus qu'en temps normal, parce que les rites funéraires, comme le disait Stéphane, et je suis tout à fait d'accord avec lui, eh bien, ne leur permettent pas, en tout cas, dans les jours à venir, voire même dans les mois à venir. Ça, je pourrais, à la rigueur, on pourra en reparler après cette pandémie, et puis je reprendrai des nouvelles des familles qui ont perdu leurs proches, mais en tout cas, le travail de deuil est un travail long qui passe par plusieurs étapes. Et pour l'instant, ils n'ont pas commencé la première étape du travail du deuil, en tout cas.
Alors, je montrais tout à l'heure le tweet de Quatre Mères en disant que ces propos n'étaient pas dissibles dans l'espace public français. Je voudrais vous montrer à tous les deux un extrait de la télévision américaine, de Fox News, qui montre qu'il en va sans doute différemment dans la société américaine. Donc, on va voir sur Fox News un responsable politique d'un État américain expliquer que, pour ce qui le concerne, je crois qu'il a 68 ans, il serait tout à fait prêt à se sacrifier pour le bien-être et l'épanouissement de l'économie américaine et de ses enfants et de ses petits-enfants. On l'écoute.
I turn 70 next week, Tucker, and you know, I sent you a note about a week ago that something has been really heavy on my heart since this started. And, you know, so I'm automatically in the high risk pool. You know, and I'm, as lieutenant governor, I work 12 or 15 hours a day, mostly from home now, but I travel when I need to. I'm living smart, listening to the president, the CDC guidelines, like all people should. But I'm not living in fear of COVID-19. What I'm living in fear of is what's happening to this country. And, you know, Tucker, no one reached out to me and said, as a senior citizen, are you willing to take a chance on your survival in exchange for keeping the America that all America loves for your children and grandchildren? And if that's the exchange, I'm all in. And that doesn't make me noble or brave or anything like that. I just think there are lots of grandparents out there in this country, like me, I have 6 grandchildren, that what we all care about and what we love more than anything are those children. And I want to, you know, live smart and see through this, but I don't want the whole country to be sacrificed. My message is that let's get back to work. Let's get back to living. Let's be smart about it. And those of us who are 70 plus, we'll take care of ourselves, but don't sacrifice the country. Don't do that.
Alors ça, c'était sur une grande chaîne américaine, hein, Fox News. Et quand je disais que c'est aux États-Unis, pas seulement, ces tout derniers jours, dans des médias européens, par exemple dans le journal suisse Le Temps, on a entendu, vous parliez tout à l'heure du silence des intellectuels français, Stéphane Audouin-Rozeau, on a entendu le philosophe français André Comte-Sponville sur le même thème, « Laissez-nous mourir comme nous voulons ». Sous-entendu, nous préférons mourir. Alors, c'est pas tout à fait sur le plan économique qui situe les choses. C'est plutôt, on préfère mourir en continuant à pouvoir embrasser nos petits-enfants que vivre 2 ou 3 ans de plus en étant interdit de contact. Et d'ailleurs, à la suite de cette interview, Le Temps est allé rechercher des interviews de septuagénaires, d'octogénaires qui disent la même chose. Comment regardez-vous, Stéphane Audouin-Rozeau, le développement de ce débat?
Oui, ça m'intéresse beaucoup, là encore, comme historien des guerres, et comme historien de la Première Guerre, les intellectuels sont souvent héroïques quand ils n'ont pas besoin de monter en ligne. Vous voyez, on est toujours prêt à se sacrifier, si vous voulez, en théorie, si vous voulez.
Ce que dit l'Américain, là, c'est que lui-même, en tant que septuagénaire, est prêt à…
Et oui, je crois il le dit, oui, il le dit, mais ça n'implique pas du tout qu'il...
Constantville, dans son interview, met en avant son propre âge, 68 ans, alors vous me direz
68 ans. Ce que je veux dire, Daniel, c'est que entre ce que l'on dit et ce que l'on est capable de faire, il y a souvent un écart devant la mort. Et ceci, en temps de guerre, est une caractéristique. Il est très aisé de s'exprimer par voie de presse ou sur une chaîne d'information en disant qu'on est prêt éventuellement, effectivement, à mourir s'il le faut, en maintenant son mode de vie, bien sûr. C'est une autre affaire, évidemment, quand on se retrouve à l'hôpital en difficulté respiratoire, face à la mort et à ce qui nous caractérise tous, c'est-à-dire la peur de la mort. Cet écart est absolument essentiel, c'est un écart vraiment là encore anthropologique, je trouve assez grotesque, pour ne rien vous cacher, vous voyez, ces appels en quelque sorte à son propre sacrifice qui ne seront suivis bien entendu d'aucun effet. Ça fait penser, si vous voulez, un petit peu, vous voyez, à ces intellectuels de la Grande Guerre, si vous voulez, appelant au sacrifice des combattants quand eux-mêmes évidemment étaient trop âgés pour combattre. Enfin, il y a quelque chose un petit peu du moment. C'est une forme d'héroïsation subtile, mais à peu de frais, me semble-t-il.
Ce débat, André Comte-Sponville, vous semble obscène ou licite?
Le débat est évidemment tout débat est licite, bien sûr, mais est-ce que ceux qui le lancent se rendent compte des conséquences? Est-ce que sans le confinement, qui est une mesure extraordinairement rustique de lutte contre contre ce virus, on le sait bien, sans ce confinement, il aurait fallu admettre que nos sociétés voient son nombre de morts multiplié par 10 ou bien davantage, est-ce que nous l'aurions accepté socialement et politiquement? Est-ce que ceux qui appellent à cela l'auraient accepté? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'ils se projettent dans la situation dans laquelle nous serions? Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un petit peu ridicule, sans doute, dans le lancement d'un tel débat.
Anne-Sophie Pelletier?
Mais je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. Alors bon, cet homme politique américain qui veut sauver l'économie en sacrifiant sa vie, oui, bah écoutez, franchement, c'est particulièrement, moi je trouve ça obscène parce que en contaminant tout le monde, je vois pas, ou le plus de monde, je vois pas comment on va relancer avec une économie avec des gens malades. Ça, c'est la première chose. Et puis vous savez, ma grand-mère me disait, oh, il y a des gens qui disent plein de choses, mais le papier se laisse imprimer. Alors, à ce monsieur, dans l'article Le Temps, c'est ça, je voudrais simplement lui proposer, moi, d'aller en hôpital voir les soignants, pour voir si, effectivement, il est capable de se sacrifier autant qu'ils l'ont fait pour sauver des vies. J'aimerais bien savoir. Parce que, franchement, je trouve ça assez obscène. Et puis, les grandes déclarations, comme le disait Stéphane, je trouve qu'à un moment donné, il faut peut-être un petit peu arrêter, parce que à quel moment ce monsieur qui fait un grand discours, eh bien, est capable de mettre en place ce qu'il a dit. Voilà, parce que les soignants, ils n'ont pas écrit dans les journaux, ils sont allés sur le terrain sans protection et ils se sont sacrifiés et ils ont sauvé des vies. Alors, remettons un peu les choses dans leur contexte.
Alors, on va maintenant accueillir sur le plateau Laëlia Véron, qui nous a écoutés pendant toute l'émission. J'ajoute simplement qu'après cette interview d'André Comte-Sponville dans Le Temps, je le disais, le journal Le Temps est allé recueillir des témoignages de septuagénaires et d'octogénaires qui vont dans ce sens-là. Mais bon, après, on va toujours trouver les témoignages qu'on a cherchés.
Oui. Si je peux juste rajouter quelque chose, on voit que cette crise du Covid fait apparaître un autre point sur nos libertés fondamentales. Sommes-nous d'accord pour que nos libertés fondamentales, à un moment donné, pendant ce temps de guerre, eh bien, elles ne soient plus si efficientes qu'avant? Je pense aussi qu'il y a ce thème-là qui est important. Et on voit que eh bien, les libertés fondamentales, il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment envie, même s'il y a des risques, qu'elles soient mises de côté, au moins pour un temps.
Quelle est votre position personnelle? Si vous posez la question, c'est que vous y avez réfléchi et que vous avez déjà un embryon de réponse.
Sur les libertés fondamentales, de toute façon, crise du Covid ou pas de Covid, en tant que députée européenne et en tant que ces applications concernant, vous avez vu le suivi de l'épidémie, je pense que nos libertés fondamentales, je ne sais pas quelles têtes elles auront à la fin de cette pandémie, mais en tout cas, je pense que ça va être compliqué. En tout cas, voilà, c'est ça.
Oui, mais alors, non, mais je ne vais pas vous laisser vous en parler. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement quand on parle de liberté fondamentale ?
Je pense que les libertés fondamentales, elles portent le nom qu'elles portent et il faut les sauvegarder au maximum. Après, très honnêtement, sur le confinement, les libertés fondamentales de chaque citoyen, d'un point de vue circulation, ont été mises de côté, mais à la fois, c'était pour éviter une propagation de l'épidémie. Donc, je pense que le fait que nos libertés fondamentales soient mises de côté, il ne faut qu'elles ne le soient qu'un temps réel et précis, et que ce temps ne soit pas pérennisé dans l'après. Voilà.
Et tout le débat sur le traçage, tout le débat sur l'application Stop Covid, apparemment, ce qu'on a trouvé sur un arrêt sur image, c'est qu'elle a déjà du plomb dans l'aile avant même d'avoir existé. Mais enfin, le débat sur l'utilité que peut avoir un traçage numérique dans le processus de déconfinement, vous en pensez quoi ?
Alors, si on écoute les commissaires européens en charge de cette application, toujours sur nos libertés fondamentales et la sacralisation de nos données de santé qui ne doivent pas être utilisées après. Oui, on voit qu'elle a du plomb dans l'aile parce que pour l'instant, ils ne sont pas capables de nous montrer une boîte à outils qui fonctionne et ils ne sont pas capables de nous dire que effectivement, nos données de santé ne seront pas revendues parce qu'aujourd'hui, c'est Microsoft qui détient nos données de santé, ne seront pas revendues à des grandes entreprises du numérique.
Mais sous réserve que ça marche, Anne-Sophie Pelletier, sous réserve qu'elle ne soit pas...
C'est sur du volontariat, c'est sur du volontariat de ce qui est annoncé.
D'accord. Laëlia ?
Oui, je réapparais.
Est-ce que Laëlia est là ?
Oui, vous m'entendez ?
Alors, on t'entend, mais on ne te voit pas encore.
Alors, je sais...
Il faudrait que tu ouvres ta caméra.
Oui, j'essaye. Excuse-moi, normalement ça marche d'habitude, et là...
Normalement ça marche, pour qu'on puisse te...
Ouais,
Alors...
Ah, ben là, je crois qu'elle est partie.
Alors, oui, alors, Laëlia, c'est... Alors, ça, c'est les beautés de la visioconférence. Laëlia s'est déconnectée pour pouvoir se reconnecter. Ah, et la voilà, avec l'image et le son. Le son ?
Ah, non, c'est bon, Bon, allez. Je ne touche plus à rien pour ne pas faire de bêtises. Donc pour rebondir sur les mots qui ont été prononcés, l'émission était foisonnante, on a parlé de beaucoup de choses. Mais puisque le point commun, c'était ce manque du soin auprès notamment des personnes âgées dans les EHPAD, je voudrais réfléchir sur les mots qu'on emploie pour parler de ce monde-là, parce qu'il me semble que c'est un monde qui est régi par le principe de la dépendance. Les personnes âgées, elles dépendent des soins, elles ne sont plus indépendantes et elles sont à l'opposé justement du modèle libéral de l'individu indépendant et triomphant qui n'a besoin de personne et qui se crée et qui se fait tout seul. Et d'ailleurs, c'est l'ambiguïté quand on parle des personnes âgées, quand on dit nos vieux, quelque chose qui a été dit dans l'émission, déjà avant de parler du mot vieux, parler de ce déterminant possessif, le no, parce qu'il peut être interprété de deux manières différentes. Soit c'est un no de ils sont dans la même communauté que nous, vous avez dit aussi, ce sont des personnes citoyennes. C'est un nous incluant dans une communauté civique et le principe de dépendance est normal, soit on considère que c'est un nous au sens d'un fardeau. Et je pense que c'est vraiment l'ambiguïté de ce lien, de considérer soit la dépendance comme normale, civique, ou comme un fardeau qu'on a dans ce nous. Et cette ambiguïté de la manière de considérer cette dépendance, on la retrouve dans la manière dont on parle aussi bien, je pense, des personnes âgées que des personnes qui les soignent. Parce que, par exemple, au début de l'émission, Anne-Sophie Pelletier, vous avez dit « nos vieux », et vous êtes tout de suite reprise en disant nos sages. Et parce que ça montre bien que même si nous, individuellement, on projette pas une connotation négative dans le mot vieux, on sait très bien que dans notre société, il y a une connotation négative qui existe et que du coup, on a beaucoup de mal à nommer les personnes âgées sans les nommer négativement. Et c'est assez fascinant d'un point de vue linguistique parce qu'il y a une évolution, ça n'a pas toujours été le cas. Je ne vais pas faire toute une histoire du vocabulaire de la vieillesse, mais par exemple, en ethnologie, quand on distingue les sociétés fondées sur les aînés par rapport aux cadets, là, les aînés, c'est un mot pour dire un mot de pouvoir. Hein. Il y a des mots positifs pour dire les personnes âgées, les patriarches, les aînés, les macrobes, au départ, servir d'un nom propre qui a été mis en nom commun pour dire au contraire le côté impressionnant de ces personnes qui vivent longtemps. Mais là, on est dans une société, on a vraiment une gêne qui se manifeste autour de ces mots. Et je m'appuie hein, sur des recherches en linguistique, un article qui s'appelle « Dire la vieillesse et les vieux » de Trinkaz, Pujalon et Humbert, qui remarque, alors que c'est vraiment fascinant, alors que le mot « vieux », c'est un mot très, très plastique en français, puisqu'il peut être aussi bien non-substantif qu'adverbe, que normalement, il peut avoir des connotations multiples. Vous remarquerez qu'il a souvent des connotations positive pour désigner les inanimés, un vieux vin ou un vieux meuble, ça va être positif, alors que pour désigner des personnes, et ben là, ça va devenir très souvent négatif. C'est quand même une insulte, même désémantisée, comme le mot pauvre d'ailleurs. On peut dire vieux con ou pauvre con. D'accord? Le mot vieux, là, et ben, il fonctionne bien que dans un sens négatif, même si la personne n'est pas âgée d'ailleurs. Et il est d'ailleurs encore plus négatif souvent pour les femmes. On le voit par exemple autour du mot vieillard, vieillarde. Autant vieillard, ça peut être positif des fois, autant vieillarde, c'est toujours négatif. Et d'ailleurs, ça a été recommandé de pas l'utiliser. Et c'est assez fou, c'est vraiment un problème politique, cette espèce de gêne linguistique qui révèle une gêne morale. Par exemple, dès 1983, il y avait le secrétaire d'État chargé des personnes âgées qui avait mis en place une commission de terminologie pour essayer de régler le problème. Ça l'avait pas réglé. En 97, il y avait le quotidien Ouest France qui avait fait tout un article en disant « N'écrivons pas vieille dame ». Parce que le mot était problématique, mais à chaque fois qu'on essaye d'inventer de nouveaux mots, ça marche pas vraiment. Je vais juste rapidement, par exemple, quand on a un peu inventé l'expression troisième âge, c'était pour dire ouais, c'est l'âge génial où enfin on va pouvoir profiter de la vie, consommer, en gros. Et très rapidement, on a dû recréer quatrième âge pour dire en fait non, les vieux vieux qui sont pas justement des consommateurs idéaux. Et on est toujours avec ce problème linguistique qui révèle sans doute un problème idéologique, un problème de valeur, parce qu'on a des personnes qui ne produisent plus, un problème économique, hein, des personnes, au fait, dans laquelle, selon l'idéologie libérale, pour lesquelles il n'y a pas besoin d'investir, si bien économiquement qu'on va dire moralement. Et je pense que ce problème de vocabulaire peut rebondir sur les soignants qui s'occupent des personnes âgées, parce que quand on parlait de mythologie de la guerre, par exemple, il y a la mythologie de la guerre, elle est aussi créée par la mythologie du héros. Et il y a une sorte de mythologie d'héroïsme des personnes soignantes, mais vous remarquerez que si on voit celle qui est créée, par exemple, même dans les séries comme Urgence ou Dr House, c'est des gens qui vont sauver. Ils vont sauver souvent d'ailleurs des gamins, mais même quand ils sauvent des personnes âgées, ils les sauvent. C'est pas quelqu'un qui accompagne, vous voyez, une vieillesse, qui soigne une vieillesse. On n'a aucune héroïsation, en fait, et aucune mythologie d'accompagner le quotidien d'une personne âgée. Et pour finir, je voudrais rebondir justement quand on a parlé du mot sacrifice. Ça me semble vraiment intéressant parce qu'il y a deux exceptions, en fait, au mot sacrifice. Vous savez, qui sont assez différentes. Soit on dit se sacrifier pour une cause, et c'est positif, soit on dit être sacrifié. Au sens passif. Et là, c'est une connotation beaucoup plus négative. C'est un peu, on est sacrifié pour quelque chose, mais ça sert à rien. Donc, que des personnes soignantes se sacrifient, c'est tout à leur honneur. Mais on peut se poser aussi la question de peut-être que nous, notre rôle politique, c'est de pas les laisser être sacrifiés. Justement, c'est vraiment pas la même chose. Et pour vraiment terminer, je voudrais juste faire une ouverture sur cette question qu'on a posée, question anthropologique des rituels de la mort. Vous disiez qu'elles n'étaient pas encore dans le débat d'idées. C'est quand même quelque chose qui est complètement concentré par un mythe qui a été repris et réécrit et réécrit. C'est le mythe d'Antigone, celle qui va quand même, malgré la loi, aller donner les derniers rites, les derniers rituels funéraires. Et d'ailleurs, Mélenchon, dans un texte récemment, l'a cité en disant que peut-être, justement, à un moment où il respecterait pas le confinement, c'est ce moment où l'affectif reprend le dessus par rapport à la loi. C'est ce mythe d'Antigone. Et ce mythe d'Antigone, en tout cas, quelle que soit la manière dont on l'interprète, le réinterprète, parce qu'il est complexe, parce que le personnage de Créon, celui qui dit la loi à laquelle contrevient Antigone n'est pas forcément négatif, eh ben, il montre justement toute cette tension entre une loi humaine et une loi peut-être plus anthropologique.
Voilà. Alors, j'ajoute en écho à ce que disait Stéphane Audouin-Rousseau que oui, Jean-Luc Mélenchon a lui dit clairement que si il avait eu un de ses parents qui était mort dans ces conditions-là, il aurait forcé les portes de l'EHPAD. Enfin, je veux dire, il a répondu à la question à laquelle vous disiez vous-même, Stéphane Audouin-Rousseau, de pas.
Il a dit peut-être, mais effectivement.
Alors, on va l'écouter. On l'écoute ? Allez, on l'écoute.
L'insoumission, c'est une autre manière de parler de l'émancipation, c'est-à-dire décider par soi-même, être son propre maître dans sa vie comme dans sa mort. Moi, je sais que si on m'interdisait d'approcher mes vieux parents mourants, il est vraisemblable que je n'obéirais pas, parce que, comme Antigone, dans la fameuse pièce de Sophocle ou d'Anouilh, je penserai qu'il y a un devoir humain qui est supérieur à ce que la loi me prescrit, et j'assumerai de devoir pâtir de l'application de la loi, si du moins j'ai respecté la loi humaine qui s'impose à moi. Vous comprenez, la vie des êtres humains n'est pas faite ni que de raison, ni que de passion. Et il faut donc trouver un chemin entre les deux, convaincre et rendre ce qui est décidé et ordonné supportable. Le confinement à vie, l'isolement de nos vieux parents, ce n'est pas tenable. Donc il faut trouver des amodiations, des manières de combiner la rigueur de la loi et l'application des devoirs humains.
Nos vieux parents.
Je voudrais juste dire que le mythe d'Antigone, d'ailleurs, il est complexe, hein, parce que par exemple, dans Sophocle, on pourrait penser que Antigone, c'est un peu du côté de la superstition et que justement, pour sortir d'une logique familiale de la superstition, on a besoin d'avoir des lois civiques rationnelles, quand il dit raison et passion, alors que dans l'interprétation d'Anouilh, même si Créon est aussi complexe, pour le coup, on est plus du côté d'Antigone, la résistance, la liberté. Mais c'est une question complexe. Peut-être que justement, Antigone et Créon, c'est un peu les deux extrêmes de la passion et de la loi, et trouver une sorte d'entre-deux et de modalité d'entre-deux, c'est une question qui est complexe.
Alors, un mot de la fin à nos deux invités. On disait tout à l'heure qu'on évoquait le silence des intellectuels des religions. Mélenchon, lui, a été clair, Stéphane Audouin-Rousseau, sur le point qu'on soulevait.
Oui, il a été extrêmement clair. Je dois dire que sur ce point précis, pas sur d'autres, mais sur ce point précis, je partage un peu son sentiment.
On l'a compris.
Je ne dois pas être le seul dans ce cas, mais le fait qu'on puisse s'exprimer de cette manière, c'est-à-dire qu'on soit devant ce dilemme, montre qu'il s'est joué au cours de ces premières semaines du confinement quelque chose de très profond dans notre société.
Et qui n'a sans doute pas encore été assez pensé.
On le pensera plus tard, comme toujours, les choses très profondes sont pensées davantage dans l'après-coup que sur le moment.
Anne-Sophie Pelletier.
Bah, je vais évidemment dire que, connaissant Jean-Luc Mélenchon, et je sais très bien qu'il serait allé passer les portes de l'EHPAD pour aller voir ses proches, ça ne me pose aucun souci. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ça a dû être une mesure difficile à prendre pour le gouvernement. Et ils ont quand même, il était temps qu'ils autorisent des visites, parce que des familles commençaient aussi à mettre la pression sur le gouvernement pour pouvoir avoir des visites, des directeurs d'établissement aussi, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que si il y a des personnes âgées qui ne décéderont pas du Covid-19 et heureusement dans des EHPAD, eh bien, il y a des possibilités qu'ils décèdent d'isolement psychologique, de ce glissement psychologique. Et là, il est important que les familles puissent être avec les personnes âgées pour éviter ce glissement psychologique. Voilà. Et j'espère qu'en tout cas, après cette crise, le monde d'après, eh bien, ce sera tiré des leçons de l'histoire et des leçons humanistes et progressistes. Voilà.
Espérons-le. Merci à tous les deux. Merci Laëlia. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.